Donc, n'hésitez pas à lire la lettre aux Éphésiens, vous ferez des découvertes. Vous retrouverez tout Paul, mais aussi des nouveautés. Enfin, nous y reviendrons. Très bien, donc on a ces textes choisis, donc des textes choisis de Maurice Zindel et donc d'André Gounel. Je vous dirai tout à l'heure qui est André Gounel. Maurice Zindel, vous connaissez. Et donc, tous les textes qui sont là sont tirés d'une conférence donc, qui était au Cénacle à Paris le 22 janvier 1966. Et cette conférence s'appelle « Quel Dieu, quel homme ?» Considérer le problème sous l'aspect de l'avenir, la première difficulté à situer nos origines humaines dans l'avenir. Alors ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, Maurice Zindel, il va nous poser la question de poser nos origines humaines dans l'avenir. Alors nous, on imagine tout de suite nos origines humaines, bien sûr, dans le passé. Alors, et c'est d'imaginer quel est le projet de Dieu ? Vers où le monde va dans le cœur de Dieu ? C'est ça de les origines humaines. Et Teilhard l'a très bien vu en parlant du Christ Oméga. Où va le monde ? Où est-ce que nous allons tous ? Nous allons dans un lieu où nous sommes rassemblés dans le Christ. La première difficulté à situer nos origines humaines dans l'avenir provient, si vous voulez, du biblisme. C'est-à-dire, quand il va dire le biblisme, c'est une espèce de lecture fondamentaliste de l'Ancien Testament. C'est de se fonder sur les affaires de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il y en a un nouveau. Hein, il prépare simplement au nouveau. Alors, c'est là un Dieu du passé. C'est un Dieu vu par des hommes qui se situaient dans l'univers tel qu'il est. Voilà, le Dieu du passé, c'est un Dieu vu par des hommes qui se situaient dans l'univers tel qu'il est, qui n'en faisait pas craquer les limites, qui ne comprenait pas que Dieu se situe dans un univers qui n'est pas encore. Vous voyez, dans la mesure où c'est surtout notre connaissance est extrêmement limitée. Aujourd'hui, ce que nous connaissons des choses est extrêmement pauvre, limité. Quand on pense qu'il y a 150 ans seulement que l'on a découvert l'évolution des espèces. Il y a 10 ans que nous avons découvert que les neurones il y avait des pépinières à neurones dans notre cerveau. Nos connaissances sont... On est au début de la science. Beaucoup s'imaginent déjà que tout est connu, que on est au début. Et donc voilà. Et non, il se situe dans un univers qui n'est pas encore. Ça veut dire qu'on n'a pas encore imaginé. Qui cherchait en Dieu l'explication d'un univers très sommairement connu, est l'explication de leur propre destin. Bien sûr, hein, si notre objectif, c'est que Dieu soit l'explication de nos problèmes, eh ben, c'est à la mesure de nos problèmes. Et j'allais dire, le Dieu, ce Dieu-là, est à la mesure de notre ignorance. Toutes ces habitudes que nous avons de nous référer à l'Ancien Testament risque évidemment de maintenir dans notre esprit l'idée d'un Dieu qui concerne le passé, qui est une explication, une pseudo-explication du passé et des origines telles qu'on les concevait dans le passé. Allez, là aussi, hein, d'être... Et non pas un Dieu qu'il faut attendre de l'avenir. Un Dieu que l'on découvrira lorsque l'on se sera fait homme soi-même. Et vous le savez bien que lorsque nous sommes humains, c'est-à-dire lorsqu'on est compatissant, lorsqu'on est plein, rempli d'espérance. C'est ça, d'être humain. Hein. Lorsque l'on a cette confiance, il s'avère que on a une connaissance de Dieu bien plus juste que lorsque l'on est recroquevillé en soi-même ou on n'a plus du tout de connaissance de Dieu. Et souvent, quand on est recroquevillé, le Dieu que nous voyons, c'est un Dieu du passé. Et lui ne peut pas nous sauver, bien sûr. Perpétuer l'image du roi d'Israël, l'image du Dieu souverain, le Dieu souverain, le Dieu qui possède tout, l'image du Dieu qui gouverne, qui légifère, qui sanctionne, qui bénit, qui maudit, qui donne la prospérité ou qui afflige au contraire par le malheur les transgressions à ses lois. Cette conception qui s'est répandue jusqu'à nos jours et qui se maintient encore de nos jours perpétue évidemment un Dieu du passé. Un Dieu qui correspond à un monde préfabriqué, un Dieu qu'il est impossible de loger dans l'univers tel que la cybernétique le conçoit, hein, donc toutes les sciences de l'information, de la réflexion, de la biologie, de toutes ces choses-là. Et on voit toutes les crises incroyables que souvent les croyants ont devant la science. Et je voulais, hein, on l'a souvent dit ici, mais qu'il n'y a aucune difficulté. Il ne devrait y en avoir aucune. Parce que ce ne sont que deux approches de la vérité différentes. Hein, la foi ne va jamais à l'encontre de la vérité scientifique. Et la vérité scientifique, parce qu'elle s'occupe, on n'est pas sur les mêmes registres. Où la biologie le conçoit aujourd'hui, un Dieu qui ne peut se situer encore une fois que dans l'avenir, dans ce monde qu'il nous incombe de créer, en nous engageant, en nous surmontant, en nous dépassant, en accédant enfin à notre dignité par l'offrande de nous-mêmes. Alors voilà le Dieu de l'avenir où il est. Le Dieu de l'avenir, on le rencontre toujours dans ce lieu où on s'engage avec lui, quoi. Et alors là, on est embarqué. On est embarqué avec lui. Pour l'apôtre, c'était l'avenir qui comptait. L'apôtre, hein, toujours, c'est de Paul dont il s'agit. Pour l'apôtre, c'était l'avenir qui comptait. Et qu'il ne fallait plus se river à un passé désormais dépassé. Et vous connaissez déjà cette parole de cette petite iséroise, hein, qui est Marthe Robin, et qui disait aussi, hein, le passé est fait pour être dépassé. Que la nouveauté de l'Évangile, précisément, était d'accomplir ce pas immense et irréversible. Voilà. L'aventure de l'Évangile, et pour nous, c'est aussi à chaque moment, hein, de sortir de schémas du passé pour s'engager dans une aventure d'un avenir avec Dieu et de faire vivre Dieu. Nous sommes tous affectés par la même erreur, inévitable d'ailleurs. Nous sommes tournés du côté du passé au lieu d'être tournés vers un avenir qui sera toujours un avenir pour l'homme qui prendra la décision de se faire homme. Voilà, hein, l'espèce d'ouverture. Hein, il y a toujours ouverture, c'est-à-dire que l'avenir est ouvert et donc rempli d'espérance à chaque fois où nous nous engageons à devenir plus humains. Et nous prenons la décision de devenir plus humains. Il nous est absolument impossible de croire à notre dignité, de croire à notre situation particulière dans l'univers, de croire à une mission de l'esprit. Si nous ne changeons pas de terrain, si nous ne passons pas dans un au-delà intérieur à nous, si nous ne créons pas cet univers tout neuf qui relève de nous, mais qu'il est extrêmement difficile de construire. Voyez, le monde nouveau, on peut le construire instantanément, parce que ça se joue à l'intérieur. Et c'est parce que le monde nouveau est créé à l'intérieur, parce que nous croyons, parce que nous vivons à l'intérieur, à l'intime, qu'il va rayonner et que le monde extérieur va se transformer. Il nous est absolument impossible de croire à notre dignité, de croire à notre situation particulière dans l'univers, de croire à une mission de l'esprit si nous ne changeons pas de terrain, si nous ne passons pas dans un au-delà intérieur à nous. L'au-delà est intérieur à nous-mêmes. Si nous ne créons pas cet univers tout neuf, voilà, créer un univers tout neuf, à l'intérieur, qui relève de nous. Puisque s'il est vrai que l'homme ne peut se trouver, ne peut se réaliser qu'en Dieu, voilà, donc on va partir de cette hypothèse. L'homme ne peut se trouver, ne peut se réaliser, devenir pleinement lui-même qu'en Dieu. C'est-à-dire dans cet autre. Alors voilà, on va reprendre la définition de ce Dieu. Cet autre, plus intime à lui-même que le plus intime de lui-même. Voilà, hein, quand, et ça sera, c'est une manière, je crois, d'aborder, de revenir pour sortir du Dieu du passé, d'un Dieu plus intime à soi-même que le plus intime de soi-même. Il est vrai aussi que le vrai Dieu ne puisse apparaître qu'incarné. Il ne peut être une présence réelle à l'histoire, une présence expérimentée et incontestable que sous la forme d'incarnation. C'est-à-dire en étant représenté par nous, en vivant en nous et en transparaissant à travers nous. Alors vous savez que il y a aussi dans toute cette affaire de l'incarnation, il y a quelqu'un dont c'est le métier de faire advenir, j'allais dire, la chair de Dieu. L'incarnation, c'est que l'incarnation de Dieu, il y a quelqu'un qui a cette mission-là, de faire que Dieu prenne chair. Eh bien, voilà, il s'avère que Dieu a pris chair en Marie, Marie de Nazareth. Et sur la croix, Jésus a confié à Marie les disciples, en lui disant, ben voici, ils sont tes fils, tes enfants, tu as mission de les faire advenir à leur identité de fils de Dieu, et donc qu'ils s'incarnent. Je crois qu'un de nos grands problèmes, c'est que nous ne sommes pas assez incarnés. Très souvent, nous envisageons la vie spirituelle comme un décollage. La vie spirituelle est fondamentalement une incarnation, en fait. Et donc, dans ce lieu à l'intime, accueillons la mère pour qu'elle nous fasse, disons-lui. Hein, et c'est ce que Jean a dit. Jean, il s'est adressé, après, sur la croix, Jésus s'est tourné vers Jean, au nom de tous les disciples qui étaient là, hein, que nous sommes, les disciples de tous les temps. Et il lui a dit, vois ici ta mère. Et alors, il nous est dit dans l'évangile que, et il l'a pris chez lui. Là, on a fait son bien propre. Est-ce qu'on peut accueillir dans ce lieu de l'intime, là, celle qui a pour mission de faire la chair de Dieu, de lui demander, de lui dire, Marie, fais-moi devenir ce que je suis. Très souvent aussi, c'est une des raisons pour lesquelles les gens ont un peu peur de venir à Dieu, c'est qu'ils s'imaginent qu'ils vont être dévoyés, qu'on va leur voler leur vie. Alors on a l'image des religieux, des religieuses. Oh, si jamais, après, il va falloir qu'il va me faire faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Hein, quand on entend, voilà. Ce que Dieu peut vouloir, c'est que nous soyons nous-mêmes. Et de s'éloigner de Dieu fait qu'on s'éloigne de soi-même. S'éloigner de... Voilà. Alors, une présence expérimentée, incontestable, que sous la forme d'incarnation. Et dans cette incarnation, il y en a une deuxième, vitale, hein, que vous le savez, hein, Paul dit, c'est la communauté chrétienne. La communauté chrétienne, l'Église, a cette mission d'incarner le mystère d'une tendresse. D'une certaine manière, on ne peut pas vivre sans. Et on y trouve là, parce qu'on est membres les uns des autres, et Paul dira souvent, mais enfin, est-ce qu'un doigt va dire, oh, moi, j'ai pas besoin de vous, je me suffis à moi-même, oh, ça me suffit. Qu'est-ce qu'il fait si le doigt se sépare du corps? Que lui arrive-t-il? Il lui arrive deux choses. Il arrive qu'il s'éteint et le corps, il lui manque un doigt. Voilà. Donc ça, c'est ça l'incarnation. Si l'on se réfère aux mots de saint Paul, la loi a été le pédagogue de l'évangile. On voit très bien que pour l'apôtre, c'était l'avenir qui comptait. Et il ne fallait plus se river à un passé désormais dépassé. Que la nouveauté de l'évangile, précisément, était d'accomplir ce pas immense et irréversible. Et Dieu sait que Paul ne se prive pas de dire aux Galates que s'ils retournent aux éléments du monde, que s'ils veulent se replacer sous la loi, ils crucifient le Christ ou rendent vaine la crucifixion du Christ. Et qu'ils ont l'obligation alors de reprendre absolument toutes les obligations de la loi, car elle est indivisible. Et on ne peut l'affirmer en en retranchant un iota. Voilà cette affaire de... La loi a été un pédagogue pour l'évangile. Maintenant, c'était toutes ces affaires. Alors nous aussi, aujourd'hui, avec les neurosciences, on sait que les lois, les processus, les organisations de nos systèmes, pour ne pas vivre dans l'esprit, pour ne pas être dans la mouvance intérieure, se laisser attirer par Dieu, on en connaît des tas de choses pour ne pas se laisser attirer par Dieu. Alors que la vie, la liberté, notre plénitude, notre joie est dans se laisser attirer par Dieu. Alors vous avez après, nous avons un texte d'André Gounel que j'ai trouvé en cherchant sur Internet. Je regardais sur qu'est-ce qu'il pouvait y avoir sur le Dieu de l'avenir. Et donc André Gounel est un théologien protestant. Qui est une des figures importantes de l'Église réformée de France et qui était un des grands professeurs de la faculté de théologie de Montpellier. Et donc voilà, j'ai trouvé ce beau texte sur le lien entre ce Dieu de l'avenir et le Dieu du passé. Le Dieu du passé est un Dieu, donc c'est tiré de Évangile et Liberté, qui est une revue de l'Église réformée. Le Dieu du passé est un Dieu figé, immobile. Pour beaucoup de gens, le mot Dieu désigne un être absolu, parfait, infini, qui gouverne et connaît tout, qui se situe hors du temps et de l'espace, et qui ne dépend de rien ni de personne en qui il n'y a aucun manque. Elle fait de Dieu un fondement plutôt qu'un mouvement. Elle voit en lui la puissance qui maintient l'ordre existant et non celle qui fait toute chose nouvelle. Vous voyez la manière dont Paul, continuellement, à chaque fois où il rencontre le Christ, il parle d'être une créature nouvelle. Et qu'est-ce qui fait une créature nouvelle, si ce n'est de la nouveauté? Et la preuve qu'on est une créature nouvelle, c'est que l'on s'engage dans de la nouveauté. Elle voit en lui la puissance qui maintient l'ordre et non celle qui fait toute chose nouvelle. Elle le lie au surnaturel. Alors là aussi, les miracles, le surnaturel. Dieu, tout ce qui est lié à Dieu est lié au surnaturel. Et le naturel, bah, c'est qu'humain, quoi, c'est la terre. C'est... Voilà. Donc tout ce qui est lié au surnaturel. Je rajouterai là, en ce moment aussi, il y a tout ce qui est lié au sacré. Et le surnaturel, le sacré. Il y a les lieux sacrés. Il y a les lieux où il y a Dieu. Il y a les lieux où on sent Dieu. Ça, alors là, c'est bien le Dieu du passé. Et qui l'écarte du quotidien et de l'ordinaire. La Bible décrit un Dieu en lutte contre des forces négatives, humaines et démoniaques, qui lui tiennent tête et le mettent fréquemment en échec. Elle n'affirme pas que tout est décidé et déterminé par lui. Elle proclame, ce qui est très différent, que la puissance divine, qui est celle de l'amour, ne sera jamais définitivement vaincue ni anéantie. Elle finira par l'emporter sur ce qui lui résiste, l'injustice, la haine, le malheur, la misère et même la mort. La majesté, la grandeur, hein, ne consiste pas à dominer et à assujettir, mais à aimer et à libérer. Il y a de la noblesse à persuader et à inspirer. Il n'y en a pas à contraindre. En second lieu, sens, un Dieu qui donne du sens, un Dieu désigne une direction, comme un panneau sur la route qui indique non pas qu'on a atteint le but, mais qu'il y a encore du chemin à parcourir. Il est alors relance, étape nouvelle, trajet qui reprend et se continue. C'est en cette deuxième acception que j'associe le Dieu dont parle la Bible au sens. La foi ne donne pas toutes les réponses. Elle pousse à chercher, à découvrir, à inventer. Il vise notre transformation afin que les êtres bestiaux, monstrueux, au cœur de pierre que nous sommes souvent, deviennent des êtres vraiment et authentiquement humains, au cœur de chair. L'homme est une espérance de Dieu, a écrit Charles Wagner. L'avenir de Dieu, c'est l'homme à venir, l'homme véritable, cette nouvelle créature à l'image du Christ dont parle l'apôtre Paul. C'est un beau texte. J'ai trouvé que vraiment pour dégommer le Dieu du passé et de nous ouvrir au Dieu de l'avenir... Alors voilà, juste et pour terminer, je reprendrai cette, en méditant sur tout ça, m'est venue cette chanson de Jean Ferrat, je crois, la femme est l'avenir de l'homme. Et donc en pensant à l'avenir de l'homme, je me suis dit ben voilà, et nous pour nous, la femme est l'avenir de l'homme. On peut penser à Marie, parce que c'est elle qui pourra nous faire devenir véritablement humains. Voilà, on va s'arrêter là.
C'était la conférence spirituelle de Jackie Parmentier, L'avenir de l'homme et le Dieu de l'avenir. Prise de son, Joël Parmentier. Mixage, Pascal Perrache. Prochaine conférence, le 26 avril 2014. Vivre dans la liberté de la foi ou sous le joug des pensées.